Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, des filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Mais alors, les époux Brunet, Madame Faure et Espéru, là, pourquoi vous accablerait-ils ?
Parce que je suis riche, que j'ai une belle maison et une jolie femme. Or, il se trouve que je ne mérite rien de tout ça. J'ai une intelligence et un physique très moyen. Les médiocres se résignent à la réussite des êtres d'exception. Ils applaudissent les surdoués, les champions, mais la réussite d'un des leurs, ça les exaspère. Elle les frappe comme une injustice.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale polar et thriller avec Garde à vue et Mortelle randonnée, deux films de Claude Miller, le premier de 81, l'autre de 1983, deux films sortis chez Rimini Éditions. On causera également de deux films sortis chez BQHL, un autre film de 1983, À bout de souffle Made in USA de Jim McBride. On ira un peu plus loin dans le temps, en 91, avec Patriote de Nicolas Meyer. Alors, c'est deux films BQHL. Et un film sorti chez ESC dont on va vous causer aussi, sorti en 90, Les Arnaqueurs de Stephen Frears. On parlera de deux films asiatiques, alors Nomad, un film de 82 de Patrick Tam, et Mad Fate, un film de 2022, mais qui est sorti au cinéma en France en 2024, de Soi Cheong. Ça, c'est chez Carlotta Film. Ces deux films-là sont chez Carlotta Film. Et enfin, on ira faire un tour dans les pays où il fait plus froid. On parlera de Sons, un film de 2024 de Gustav Moller, qui est sorti chez Blackout. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Lucie Mautier, Jean Lesclose, Jean-Pierre Vasseur et François Villa pour leur aide sur cette émission. Pour causer polar et thriller, je suis aujourd'hui accompagné de mes deux plus fins limiers. Je veux bien sûr parler de Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimera Tech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent à nos côtés, Thomas Roland, dit le loup-garou picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige deux sanglantes chroniques pour RCA. Salut Thomas.
Salut GG, salut Damien et bien évidemment salut à toutes.
Chers amis, je vais débuter cette émission par ce qui est considéré quand même comme un classique hein, du cinéma français, un film de 1981, un film réalisé par Claude Miller, qui est un réalisateur sous-estimé, dont on parle plus beaucoup, que j'aime beaucoup, qui est un film avec Lino Ventura, Michel Serrault, Romy Schneider, Guy Marchand, enfin surtout Lino Ventura et Michel Serrault, parce que c'est eux qu'on voit le plus dans le film. L'histoire est simple. Elle est adaptée par Jean Herman, Claude Miller et Michel Audiard. Mais on va y revenir d'un bouquin de John Wainwright. Et elle se passe la nuit de la Saint-Sylvestre. Et, comment dire, Maître Martineau, il est convoqué au commissariat. C'est Michel Serrault, hein. Donc c'est un notable, hein, convoqué au commissariat pour répondre aux questions de l'inspecteur Gallien, qui lui et donc joué par Lino Ventura, au sujet donc du meurtre et du viol de deux fillettes quelques semaines plus tôt. Et petit à petit, enfin ce film se centre autour de cette garde à vue, mais petit à petit, il y a des éléments à charge vont amener Gallien à prendre la décision de placer Martineau en garde à vue. C'est là que le film va prendre une tournure assez incroyable. Alors, on est... Claude Miller, il n'a pas fait beaucoup de films quand il fait Garde à vue. Ça doit être son troisième long-métrage. C'est pas n'importe qui, c'était l'assistant de Truffaut. C'est c'est vraiment un cinéaste à part, dans le cinéma français, et surtout un grand technicien. Enfin, il y a vraiment une grande maîtrise du langage cinématographique, capable de s'effacer derrière ses sujets, mais aussi de faire des films très sophistiqués. Il débute avec La meilleure façon de marcher, en 1976, un film que j'aime beaucoup, dont on ne parlera jamais assez, qui est un premier long-métrage qui est vraiment extraordinaire, et qui s'inscrit complètement, on peut le revoir, hein, parce que dans des thématiques qui, aujourd'hui, sociétalement, sont au cœur du débat, et en particulier sur l'acceptation... sur la question du genre, film passionnant avec Devers et Bouchité, extraordinaire, très bon premier film. Et ensuite, il fait un autre film qui s'appelle Dites-lui que je l'aime, en 77, c'est l'année suivante, et le film marche pas, très intéressant d'ailleurs, hein, mais le film ne marche pas, et donc après il va essayer de monter plein de projets qui vont pas aboutir, et puis il va lire un jour À table de John Wainwright à la Série Noire. Il va le trouver super bien, il va trouver des corrélations en fait avec La meilleure façon de marcher, hein, des thématiques proches, et en particulier la thématique qui est de l'homophobie, la condamnation comme ça des pratiques sexuelles jugées comme déviantes. Mais on lui impose, en fait, la production lui impose, dans Ariane Film, de travailler avec Michel Audiard. Et en fait, lui, c'est un enfant de la Nouvelle Vague. C'était un assistant de Truffaut, mais aussi de Godard, de René. Pas du tout... l'univers d'Audiard, qui était plutôt rejeté hein, par les gens des Cahiers du cinéma et tout. Henri Janson, Michel Audiard, c'était des dialoguistes qui ne trouvaient pas grâce aux yeux forcément des jeunes Turcs, on va dire. Voilà. Et donc, lui, il se considère comme quelqu'un qui n'est pas du tout dans le style Audiard, il n'aime pas trop. Donc, en plus, Audiard, à cette époque-là, il est très célèbre, il est riche et célèbre. Donc, moi, j'ai découvert en préparant cette émission qu'il travaillait de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il commandait à des auteurs des squelettes de scénarios. Là, en l'occurrence, c'est Jean Herman, alias Jean Vautrin. Il commande des squelettes de scénarios, puis après, il rajoute des dialogues, il les modifie, tout ça. Mais il ne fait pas le scénario dans sa totalité, en fait. Il fait plus un travail de dialoguiste. Et là, en fait... Et Claude Miller, avec donc Jean Vautrin, vont envoyer des pages de scénario à Audiard. Et là, assez surprenant, et ben Miller va dire à Audiard, bon, pour ça j'en veux pas, oh, ça c'est très mauvais ça. Là c'est bon, ça marchait peut-être dans Touchez pas au Grisby ou je sais pas quoi, mais là ça marche pas. On n'est pas dans ce type de film. Moi je veux pas de ça, je veux pas de ci. Ça va être très tendu. Il va gagner le respect de Michel Audiard, en fait, parce qu'au final, ça va être certainement parmi ce que... Il le dira plus tard, Audiard lui-même. Ça lui a permis d'écrire certainement un de ses meilleurs scénarios. Mais ça a été une lutte, en fait. Et puis, en même temps, de l'autre côté, il y a Michel Serrault, qui, lui, va aussi influer sur le scénario. Et lui, il va dire, non, mais stop, parce qu'en fait, dans le bouquin d'origine, c'est un monsieur tout le monde, c'est pas du tout un notable, le type qui est accusé. Et Serrault, il va dire, non, mais moi, mon personnage de salaud, s'il est en train de... à l'époque, il est en train de s'inventer un personnage de salaud, hein, qui va de plus en plus jouer dans de plus en plus de films. Il dit, moi, le personnage, il doit pas être un monsieur tout le monde, le personnage doit être un notable. Parce que pour tenir tête à un flic, pour pas en avoir peur, il faut être un notable. Il faut se sentir au-dessus de tout. Voilà. C'est pas idiot, hein, d'ailleurs. Hein, c'est effectivement, on voit bien que, évidemment, que le flic va pas se comporter pareil avec un notaire qu'avec un pauvre type ramassé au coin de la rue, quoi. Et du coup, il en fait un personnage arrogant, élégant, qui est différent du bouquin. Et c'est lui, hein, c'est vraiment Serrault qui impose ça, en fait. Et du coup, le scénario est modifié dans ce sens-là. Et donc, ça va donner... un film assez étonnant. Moi, je le trouve extraordinaire. Alors là, en plus, la copie, la 4K, elle est magnifique, la copie qui est sortie par Rimini. Et c'est assez terrible. Parce que Michel Serrault, dans le film, il est coupable, il n'est pas coupable. Ça, je ne vais pas vous le révéler. Par contre, oui, il est amoureux des jeunes filles. Et en particulier, d'une jeune fille. Voilà. Donc, et ça va donner du coup un... Parce qu'il vit... être amoureux de jeune fille quand on vit avec Romy Schneider, quand même, merde, c'est terrible. Parce qu'en fait, mais même ce couple qu'il forme avec Romy Schneider, c'est le couple qui fait envie aux autres, en fait. C'est le couple de notables, c'est le couple... Elle est belle, il est élégant, tout ça et tout. Ils créent l'envie, ils ont de l'argent, ils ont... Mais en fait, on découvre dans le film qu'ils n'ont plus de vie sexuelle depuis des années et des années. Enfin, c'est un couple de façade qui est réuni pour le pognon, pour l'appartenance à une classe. Et le film est assez étonnant parce qu'en fin de compte, c'est un film, je le trouve par rapport à d'autres films de Claude Miller, dans sa facture assez classique. Lorsqu'il raconte, ça n'est pas classique. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté ce bourgeois vicelard, mais il y a d'autre côté le flic. Il est dangereux parce qu'il est vicelard aussi. C'est-à-dire que c'est un flic qui travaille à l'intuition. Donc lui, s'il part du principe qu'un tel est coupable, il part du principe que la garde à vue, c'est pour le faire avouer. C'est pas pour chercher s'il est coupable ou pas, c'est pour le faire avouer. Lui, il décide. Donc du coup, ça crée effectivement une confrontation assez particulière. Et puis par moments, on retrouve le Claude Miller plus expérimental, en particulier dans l'utilisation d'inserts. C'est très étonnant. C'est un film très étonnant qui, pour moi, se bonifie à chaque vision et qui est qui doit aussi certainement beaucoup à l'inventivité de... Alors, c'était pas un très grand réalisateur, mais c'était un très grand chef opérateur, Bruno Nuitaine. Il y a aussi une superbe musique de Georges Delerue, enfin pléonasme, j'ai jamais entendu une mauvaise musique de Georges Delerue, mais qui est parfaitement utilisée par Claude Miller. Enfin bref, c'est vraiment étonnant parce que c'est le film attendu et en même temps c'est le film parfait. Avant de voir le film, on s'attend à voir ça et on le voit et c'est parfait. Donc c'est assez étonnant, voilà. Vous écoutez Culture Prohibée. Après, il y a un autre film, le film suivant de Claude Miller, qui sort en 93, s'appelle Mortelle Randonnée, avec Michel Serrault et Isabelle Adjani. L'histoire est assez simple. C'est adapté de Marc Bem. Qui a déjà lu des livres de Marc Bem, c'est qu'il n'y a jamais rien de simple chez Marc Bem. Il est complètement tordu dans sa tête, ce gars. Il est complètement fêlé. Et c'est un auteur fou. Moi, j'adore Marc Bem. Je crois que Thomas, tu aimes bien aussi. Je te vois agiter les mains comme ça.
En fait, je n'ai lu que Mortelle Randonnée. J'en ai un autre sur une étagère, une histoire de vampire, je crois, que je n'ai pas encore lu.
De toute façon, c'est dingue. Marc Bem, je pense, c'est dingue. En tout cas, faux. Voilà. Et là, l'histoire, elle est assez étonnante. C'est parce qu'à la base, c'est un scénario sur lequel travaille Marc Bem, et qui est en fait pour le compte d'un studio ricain. Dans l'histoire, c'est l'histoire d'un, l'histoire du film en fait. Hein. C'est un homme qui poursuit une jeune fille et sans jamais l'inviter au restaurant. Sauf que cette histoire, elle va être complètement changée pour le film de Claude Miller et avec l'apport aussi de Michel Audiard et de Jacques Audiard, jeune scénariste. Et ensemble, ils vont modifier tout ça. Et ça va devenir l'histoire de Michel Serrault, qui est un détective privé assez étrange, qu'on surnomme l'œil, d'ailleurs, hein, voilà, et qui, en fait, confie des enquêtes pas très intéressantes, et puis on lui trouve... En fait, il est traumatisé par le fait que sa fille Marie a disparu, alors... Enfin, elle a disparu. Il veut retrouver sa fille qui a été kidnappée, en fait, par son ex-épouse, mais qui, quand elle avait 2 ans, donc il ne sait plus du tout à quoi peut ressembler sa fille aujourd'hui, tout ça. Il est poursuivi par ce fantôme-là. Et il faut savoir aussi que Michel Serrault tenait absolument à jouer ce personnage, parce que Michel Serrault a perdu un enfant dans la vraie vie. Donc, c'est surtout ce qui explique aussi le côté très habité, très étrange de ce film. C'est un film à la limite du fantastique, hein, pour ceux qui l'ont vu, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faut absolument le voir. Et il est engagé, en fait... pour surveiller un jeune homme de bonne famille. Parce qu'on trouve qu'il sort avec une femme un peu dangereuse. Alors cette femme, c'est Isabelle Adjani, jeune, au summum de sa beauté, qui incarne l'archétype de la femme fatale. Et oui, la famille a raison d'avoir peur, puisque lui, il essuie et tout ça et tout. Puis alors après une nuit torride, qu'est-ce qu'elle fait Isabelle Adjani? Elle tue le mec. Voilà. Et elle jette son corps dans un lac. Et l'œil, en fait, il ne va pas l'arrêter. Il va continuer à la suivre comme ça. Et elle va tout le temps changer d'identité, elle va tuer des gens un peu partout en Europe. Et lui va continuer à la suivre comme ça. Il va se créer entre eux une étrange relation. Michel Serrault est complètement habité, je vous l'ai dit, que ça lui évoque un peu sa vie personnelle. Il faut savoir aussi que Michel Audiard a perdu un fils, Jacques Audiard a perdu un frère, donc, et que donc tout ça, on sent que le film, il est hanté par la mort, et qu'en fait, Isabelle Adjani, c'est l'ange de la mort, en fait. C'est une sorte de version sexy de la mort, en fait, qui se promène comme ça. Et à un moment, parce que c'est un film de fantôme, à un moment, on se demande même si c'est pas une projection mentale de Serrault, à tel point qu'à un moment, d'ailleurs, il y a un meurtre, elle va pas au bout, elle tue pas la personne. Ben, Serrault, il le tue, lui, parce qu'en fait, il fallait qu'elle le tue. Donc lui, il le tue à sa place. Le film va décrire cette étrange relation entre ces deux êtres et cet homme qui poursuit ses fantômes. Alors en plus, il y a un casting assez dément hein, dans les seconds rôles. Guy Marchand, Stéphano, Dran, Geneviève Page, Samy Fray, Patrick Bouchité, Jean-Claude Brialy, c'est Macha Merrill aussi. C'est assez étonnant. Alors c'est un film plein de spleen, quoi. C'est un film très très étrange. Et en même temps, c'est un film... sans aucune psychologie. Bon, on parle bien un peu des malheurs du passé du personnage d'Isabelle Adjani, de Catherine, mais en fin de compte, c'est pas très important. Enfin, c'est un truc... Et le film évite toute psychologisation. En fait, c'est la Hard Boiled School, quelque part, un peu matinée de fantastique. C'est assez étonnant. Enfin, moi, il faut que vous découvriez ce film. Si vous voulez connaître le secret de Catherine, hein, donc justement, cet ange de la mort, il faut découvrir ce film qui est sublime, qui est envoûtant et qui est, on peut le dire, noir comme la mort. C'est une formule un peu, l'ange noir, hein, Brissot aussi reprendra cette figure. Mais là c'est un film unique, hein, c'est vraiment un film unique dans l'histoire du 7e art hexagonal et dans la carrière de Claude Miller. La copie est sublime et c'est sorti chez Rimini Édition. Do you love me? Now say it! It doesn't matter if I love you. It's wrong for us. Lisa! Jerry's gonna get you wherever you go. And you, now leave me. Breathless! Richard Gere, Breathless. La même année, mon cher Thomas, drôle d'idée, fait par un cinéaste underground, plutôt intéressant d'ailleurs, Jim McBride, va sortir aux États-Unis un remake, on peut appeler ça un remake, d'un film culte de la nouvelle vague française.
Et oui, et oui, et oui. Quand on s'attaque à un remake d'un film intouchable, hein, ça fait peur. Hein. Je sais que toi, Gégé, quand t'as appris ça, qu'on allait toucher à ce fameux film, t'as eu des frissons, t'as eu peur, hein, je le sais.
Ouais, j'ai eu très peur que Godard se rende compte que d'autres pouvaient mieux faire que lui. Ouais,
Et donc, en plus, c'est un Américain qui s'y colle. Et oui, on parle de Jean-Luc Godard, de À bout de souffle, hein, le classique de Jean-Luc Godard. C'est un Américain qui s'y colle, Jim McBride, effectivement, le réalisateur indépendant, hein, qui a fait des documentaires, des films plutôt intimes, hein, genre autofiction ou journal filmé, des choses comme ça. Et donc, il réalise donc Breathless, À bout de souffle, Made in USA en français. Et ça raconte l'histoire de Jesse, un malfrat de petite envergure qui vole une voiture de luxe pour de Las Vegas retrouver la belle Monica qui vit à Los Angeles. En route, il est appréhendé par un policier parce qu'il va un peu trop vite avec sa Porsche. Hein. Enfin, c'est pas sa Porsche, mais il va quand même trop vite avec. Et il fait une sortie de route. Et puis, quand le policier l'appréhende, il trouve un pistolet dans la boîte à gants et puis il tire. Ce qui n'est pas vraiment la meilleure idée qu'il a eue dans sa vie. Et donc, il s'enfuit, laissant le policier blessé à terre. Et une fois à Los Angeles, il retrouve Monica, jeune étudiante de bonne famille, qui tombe évidemment sous son charme. Hein. Seulement, Jesse est recherché par la police. L'agent sur lequel il a tiré, il est mort. Et donc, Richard Gere succède à Jean-Paul Belmondo pour cette transposition du film de Jean-Luc Godard aux États-Unis. Et il fallait bien une Française pour succéder à Jean Seberg dans le rôle de l'Américaine dans le film de Jean-Luc Godard. Et qui s'y colle, c'est la belle Valérie Caprisky, hein, qui joue une jeune fille de bonne famille qui se retrouve dans une aventure qui la dépasse parce qu'elle est quand même amoureuse de ce bad boy. Parce que Richard Gere joue donc un bad boy qui n'est pas forcément sympathique au début. Hein. C'est un petit malfrat, sûr de lui, frimeur, arrogant et qui est d'ailleurs... Il pénètre par effraction dans l'appartement de Monica, dont il est fou amoureux. Ouais, il se sert, il prend une douche, etc. Et moi, je trouve que ce remake, c'est une belle réussite, en fait. Alors, en le revoyant, là, je trouve que ce film est vraiment très bon. Alors, il y a un petit côté hommage au film policier des années 50 américains. Il y a aussi un petit côté très BD. C'est très coloré au niveau de la mise en scène. D'ailleurs, le personnage principal lit des BD du Surfeur d'Argent. Hein. Donc, il y a vraiment ce petit côté BD, ce petit côté fluo qu'on retrouve dans certains plans. Et moi, je trouve que le film... déjà, je trouve qu'il a plus de rythme que le film de Godard. Je sais que une fatwa va tomber sur moi bientôt quand cette émission sera diffusée. Ce À bout de souffle, Made in USA de Jim McBride, moi, je trouve que c'est une belle réussite. Il y a beaucoup plus de rythme et le film, surtout, il est sensuel. Quoi. Il y a vraiment une vraie sensualité. Il y a quand même une longue séquence d'appartements où ils sont tous les deux... Et Valérie Caprisky, elle est superbe. Et même lui, il dégage quelque chose. De toute façon, il a été choisi pour sa plastique. Hein.
Alors, Richard Gere, c'est quand même un super beau mec.
Ah oui.
Voilà. Et puis aujourd'hui, c'est toujours un super beau mec.
C'est... Le film est très sensuel. Il y a vraiment quelque chose de très beau. C'est très romantique. Je trouve qu'il y a vraiment... il y a quelque chose qui se dégage de ce film... tout en s'installant dans un genre de film policier très à l'américaine, avec les grosses voitures, la fascination pour les voitures, etc., la vitesse. Et moi, je trouve qu'il y a un vrai souffle romantique dans ce film, grâce à ces deux acteurs hein, qui réussissent à insuffler ce côté très romantique, très sensuel. Il y a des scènes superbes, donc la scène dans l'appartement où ils font l'amour, la scène au bord de la piscine, et il y a aussi cette scène où ils se retrouvent dans un cinéma derrière l'écran où ils font l'amour, et je trouve cette scène magnifique. Et ce personnage finalement de Jesse, hein, qui nous paraît quand même pas très sympathique, finalement il évolue, finalement on a de l'empathie pour lui, on a de l'affection pour lui, et finalement on est plutôt triste pour ce gars-là parce qu'il s'enfonce dans son truc, etc. Alors que finalement, il est vraiment très amoureux de cette femme-là, de cette jeune femme. Non, moi, je trouve que c'est En revoyant, là, je trouve vraiment que c'est une belle découverte et moi, je le trouve vraiment supérieur au film de Godard.
Eh bien, c'est dit. Donc, À bout de souffle, Made in USA de Jim McBride, c'est disponible chez BQHL. La copie est très belle. Et puis, moi, j'ajouterais peut-être qu'on peut faire des liens, en plus, avec un film d'un cinéaste que tu adores, Paul Schrader. Le personnage de Richard Gere dans les deux films, c'est des films différents, évidemment, mais ils ont un peu ce même côté, c'est-à-dire beau, séduisant, un peu arrogant, un peu sur deux au départ, et puis qui continue de s'enfoncer dans la mouise au fur et à mesure du film. J'ai revu les deux il n'y a pas longtemps, donc c'est marrant de revoir les deux
Lequel de Schrader
le American Gigolo. Il y a des points communs, mais après les deux films sont différents, mais il y a des petits points communs.
Mais Jesse, c'est un paumé, quoi. Finalement, on l'aime bien, ce Jesse. C'est un paumé, c'est un marginal, quoi.
Alors, en tout cas, on vous le conseille vivement. Voilà. Et c'est signé Jim McBride, un cinéaste assez méconnu. Moi, j'aime beaucoup Jim McBride. J'ai écrit sur lui dans quelques revues. Je trouve que c'est un cinéaste. Il a fait Diary of Alan Holzman. Il a fait plein de trucs super intéressants. Ils en ont un peu oublié, ce cinéaste. Et pourtant, c'est un bon cinéaste. Écoutez Culture Prohibée spécial polar et thriller. Thank you. autre film sorti chez BQHL, d'un bon cinéaste, mais c'est pas son meilleur film là, c'est Patriote. Le titre original, c'est Company Business. Alors, on va plutôt utiliser le titre original parce que Patriote, alors c'est au pluriel, mais ça fait confusion avec d'autres films, et en particulier un film d'Éric Rochand, donc on va, qui est très bien d'ailleurs, et on va essayer de ne pas se mélanger. Alors là, c'est quoi Patriote ? Alors, c'est un film au départ qui devait être avec Richard Dreyfuss et Elliot Gould, et au final, c'est avec Gene Hackman et Mikhail Baryshnikov, je vais arriver à le dire. Et c'est la guerre froide qui se termine, voilà, et Sam Boyd, qui est un agent de la CIA, qui est retraité, il est rappelé pour une dernière mission, il doit escorter un espion soviétique, Piotr Grushenko, jusqu'à Berlin pour un échange de prisonniers avec les Russes. Je vous fais pas de dessin, vous devinez qui est Sam Boyd et qui est l'espion soviétique. Hein. Et puis, il est d'abord réticent, il fait un peu la moue, il n'est pas content, hein, parce que c'est son ancien ennemi, il n'a pas envie de le ramener là-bas, puis de lui rendre sa liberté. Et puis, ils vont se rendre compte qu'ils ont été doublés par leurs gouvernements respectifs, et ils vont devoir mettre leur rancœur de côté et faire équipe pour démasquer les agents doubles qui ont infiltré la CIA, qui ont infiltré donc, le KGB. Alors, le film, c'est un film de Nicolas Meyer. Alors, un réalisateur. Il n'y a qu'un bonus hein, sur l'édition. Hein, Vincent Nicolet de Culture au Point, il revient beaucoup sur la carrière de Nicolas Meyer. Mais c'est vrai que c'est un réalisateur que nous, on aime bien, qui est assez peu connu, en fait, qui a réalisé un fabuleux film hein, qui s'appelle C'était demain, qui était un vrai bijou de série B, qui avait eu, je crois, le Grand Prix à Avoria à l'époque, fait, qui est vraiment super. Il a fait un bon Star Trek, Star Trek 2, La colère de Khan, qui est sympa, qui est un Star Trek. Il en a fait un en fin de carrière, mais je parle d'un bon, moi. Je trouve qu'en fin de carrière, il est moins bon, là, l'autre. Ouais, il est sympa, mais il est moins aussi. Bon. Ouais, c'est un bon réal, hein. Et puis, il a fait un film dont on a parlé il y a pas longtemps, Les Imposteurs, avec Pierce Brosnan, super intéressant comme film, hein, qui était sorti, lui, chez Rimini. Il est disponible chez Rimini. Et on en avait causé dans l'émission. Et on attendait, en fait, un peu mieux de sa part pour ce Company Business. Mais quand on regarde, quand on voit les bonus là, de cette édition, enfin le bonus, on se rend compte qu'en fait, ça n'a pas été simple pour lui parce qu'en fin de compte, il s'est retrouvé confronté à un Gene Hackman qui n'était pas content avec le scénario, qui n'arrêtait pas de faire retoucher le scénario. Le scénario était constamment réécrit. Ça donne du coup un film... c'est pas complètement un buddy movie, c'est pas complètement un thriller, c'est pas complètement un film d'espionnage. Rien n'est complètement complet, en fait, dans ce film. Et pourtant, et puis surtout, il y a la fin du film qui arrive, on sent bien qu'il y a un problème de scénar. Hein. La fin du film, elle arrive, boum, bam, boum, c'est fini. Point barre. Mais il se passe quoi là ? Bah, c'est ce qu'on appelle une fin en queue de poisson, en fait, hein, globalement. Et on peut s'en contenter. On va dire que c'est au spectateur de faire son trajet mental, psychologique. Mais. En fait, là, pour le coup, pas vraiment. Là, je m'en contente pas, parce que là, on sent bien que c'est dû à des difficultés liées à la production du film. Et pourtant, il y a des moments super dans le film où on retrouve bien la patte de Nicolas Meyer. Il y a un climax qui se passe à la Tour Eiffel. En plus, il y a un point de vue qui est intéressant, parce que CIA, KGB, c'est pas la CIA est meilleure que le KGB. Tous pourris. C'est un propos qui n'est pas inintéressant parce qu'on est en 91 quand même. Ça reste un thriller, un film d'espionnage qui se laisse regarder. Il paraît, alors d'après les renseignements que j'ai pu avoir, qu'ils valent ce qu'ils valent, mais il paraît qu'en plus, le scénar original était très bien. Enfin, on n'a pas bien compris ce qui s'est passé. Il y a eu une guerre d'ego entre les acteurs. Enfin, ça ne s'est pas bien passé, visiblement, le tournage. Et c'est ce qui explique que le film est un peu en deçà. C'est quand même un bon film. Hein. Mais je pense que ça aurait pu être mieux encore, surtout quand on connaît la filmo de ce réalisateur très intéressant. Il s'appelle Patriote, donc au pluriel. Et c'est disponible chez BQHL et c'est signé Nicolas Meyer.
Plus roublard que moi, Roy. Et tu sais ce que ça fait à quelqu'un.
Oh, putain, pourquoi tu t'occupes de ce qui te regarde pas, Ali?
Je veux tout savoir sur toi, raconte-moi tout.
Tu veux être arnaqueur?
Arnaqueur, oui.
Pas de partenaire. C'est ta première leçon. C'est pas drôle de rouler un imbécile. Les imbéciles sont faits pour se faire rouler. Les arnaqueurs ont une irrésistible envie de battre les plus malins. Avoir un autre pro. Ou même ton partenaire. Ça vaut le coup.
Tu travailles sur un coup en solo, ne me dis pas non, c'est moi qui ai écrit le bouquin. Merde!
Quelle équipe on va faire? Tu ne vas pas le regretter, Roy.
Moi aussi, t'essaies de m'avoir. Petit con. J'ai besoin de ce fric, Roy. Non. Je te dois la vie maintenant.
Alors je vais vous parler d'un film là qui sort chez ESC. Un film de 90, un film de Stephen Frears qui s'appelle Les Arnaqueurs. Alors, c'est dans ce film, John Cusack il interprète Roy. Alors, Roy, c'est un petit arnaqueur à la manque. Sa mère, c'est Lily, elle est jouée par Angelica Houston. Et c'est une arnaqueuse également. Et puis, il est à l'hosto parce qu'il a fait un coup foireux. Quoi. Voilà, donc il se retrouve à l'hosto. Et à l'hosto, sa mère vient le visiter, elle rencontre Mira. Mais alors Mira, c'est Annette Bening, la compagne donc, de son fils. Alors pour le coup, Mira, elle, c'est une arnaqueuse de haut standing. Voilà, c'est vraiment l'équivalent du Georges Clooney chez Soderbergh dans Protection rapprochée. Hein. C'est une très très grande arnaqueuse. Et entre les deux femmes, la haine va très vite s'installer. Et Stephen Frears, alors c'est étonnant, c'est un des rares exemples en fait de cinéaste social britannique qui a su en fait, parce qu'il a fait pas mal de films avec les gros studios, qui a su s'accommoder du travail avec les grands studios. Différemment de Ken Loach et Mike Leaf qui n'ont jamais, ils ont essayé, mais ils ne sont pas arrivés. Ken Loach a essayé, il y a eu des tentatives même de films pour enfants, ça n'a jamais fonctionné. Mais lui, il a réussi et en plus à faire d'excellents films. Et là, il met en scène, alors attention, un scénario de Donald Westlake, attention, c'est pas n'importe qui, d'après Jim Thompson, là non plus, c'est pas n'importe qui. Donc déjà, on dit Jim Thompson, on sait que ça va être bien tordu. Je me rappelle quand même à quel point c'est tordu ce film quand même, parce que derrière cette course à l'échalote drôle et cruelle, en fait, se cache le tabou de l'inceste, parce qu'en fait... Angelica Houston, elle aime son fils, quoi. Mais elle l'aime, quoi, voilà. Et elle est jalouse d'Annette Bening. Ah, c'est quand même... Mais nous, on se marre, on regarde ça, on se rend pas compte. Alors, il faut dire qu'on est dans les thématiques Stephen Frears. Il a fait aussi Les Liaisons Dangereuses, tout ça, qu'il a très bien adapté, hein, la Clo. Hein. Donc, voilà. Et les trois acteurs, on sent qu'ils s'éclatent. La musique d'Elmer Bernstein, elle est vraiment top. Et au final, ça donne un film passionnant, drôle, rythmé. Un vrai film noir. Annette Bening a jamais été aussi belle que dans ce film. Alors, le film est aussi très dérangeant, très Jim Thompson. On va pas vous rappeler tout Jim Thompson, hein, Guet-apens, les 1275 âmes qui deviennent 1280, qui servent de base à coup de torchon d'ailleurs de Tavernier, excellent film de Tavernier, qui lui transpose ça dans le colonialisme avec un Philippe Noiret au summum. Enfin bref, voilà, c'est un film particulier, comme toutes les adaptations de Jim Thompson, et donc on vous conseille vivement cet excellent film. Quand je l'ai revu, j'ai trouvé ça vraiment excellent, Les Arnaqueurs de Stephen Frears, et c'est disponible donc chez ESC. Thank you.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Je vais passer chez Carlotta pour vous parler d'un film de Patrick Tam qui s'appelle Nomad. Alors Nomad, on aurait pu le mettre dans à peu près n'importe quel type d'émission parce que tous les genres s'y croisent. C'est pas évident. C'est un film assez étrange, un film de 1982, qui est signé donc par un des réalisateurs les plus importants de la nouvelle vague hongkongaise des années 70 et 80. On rappelle, y avait Anh Huy, il y avait Chuark, voilà. Et c'est un film qui raconte quoi ? Donc, c'est l'histoire de Louis et de son amie Cathy, qui sont des gens de la... des jeunes, c'est que des jeunes dans le film, mais qui sont issus de la bourgeoisie hongkongaise, qui vont se lier à Tomato et Pong, qui sont, eux, plus modestes. Et devenus inséparables, les deux couples vont mener une vie assez oisive, en fait. Et ils vont rêver de rallier des contrées lointaines, je ne sais plus, aller dans les pays du Maghreb, je crois, à bord d'un bateau du voilier du père de Louis, donc, qui s'appelle le Nomade. Et ils vont être rejoints par Jinsuke, le petit ami japonais de Cathy, qui lui est poursuivi pour avoir déserté l'armée rouge japonaise. Ouais, je sais, c'est assez étrange comme postulat de départ. Quand les bonus sont très bien et permettent, alors en fait, surtout il y a un texte de Patrick Tam qui permet de comprendre en fait les énormes difficultés de production du film, qui explique en fait l'étrange, le côté très étrange, le côté chaotique du film. Parce que c'est un film chaotique, il peut s'inscrire certes dans la mouvance d'un peu d'explosion du cinéma de genre qui était pratiqué très fréquemment alors par Anh Huy dans sa trilogie vietnamienne, par Chuark dans L'Enfer des âmes, dans Butterfly Murders, où effectivement on essayait de casser le genre qu'on traitait. Et ce film, on le découvre dans les bonus. Parce que c'est à la fois un film politique, c'est à la fois un film érotique, il y a des scènes érotiques, c'est à la fois un thriller. À la fin, ça devient un film de sabre gore avec des geysers de sang et tout ça. Enfin, c'est très, très étonnant. Et c'est le fruit des difficultés de production qui, pour le coup, c'est ce qui fait sa singularité. Et on part d'un film assez idéaliste, assez romantique, et puis on termine dans un truc hyper sanglant, complètement cinéma de genre. C'est assez inclassable en fait. C'est un film assez unique. La fracture sociale se termine par un découpage au sabre. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment assez étonnant. C'est un film qui m'a assez vraiment scotché en fait. Parce qu'en fait, je vous mets au défi de savoir ce qui va se passer dans les 10 minutes qui viennent dans ce film. Et ça, déjà, c'est une bonne qualité. Donc, ça s'appelle Nomad. C'est un film de Patrick Tam. Et c'est disponible chez Carlotta Film. Alors, je vais rester dans les films asiatiques. Alors là, avec un film encore atypique. Alors, venu de Hong Kong. Je dois dire, Hong Kong n'existe plus. Mais le réalisateur Soi Chiang, c'est un des disciples de Johnny To. Déjà, c'est bon signe quand on est disciple de Johnny To. Et qu'on ne cesse de redécouvrir là en Europe, parce que lui, il fait des films depuis 20 ans. Il fait pas des films depuis quelques années. Et qui a connu, là, en 2024, l'année dernière, deux sorties salles simultanées, l'excellent City of Darkness et Mad Fate. Mad Fate, là, ce film de Soi Chiang, qui lui était de 2022, mais qui a été sorti au cinéma là, par Carlotta Film, en 2024. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, je ne sais pas si vous aviez vu Limbo, son film précédent, film en noir et blanc, dans une métropole hongkongaise qui est entièrement une sorte de décharge à ciel ouvert où un tueur en série torturait, laissait vivre ses victimes sous des détritus pendant très longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'était assez particulier. C'était un film passionnant, sans être non plus un grand film, parce que c'était pas sans défaut, mais c'était un sacré film. Et là, on est un peu dans la même veine que... City of Darkness est meilleur, mais c'est différent. C'est plus grand public aussi, City of Darkness. Mais avec Mad Fate, on est plus dans la veine de Limbo, mais avec un côté peut-être plus lumineux, plus drôle, bien que, attention, c'est pas de la comédie franche rigolade. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire d'un maître de Feng Shui. C'est pas uniquement un mec qui essaye que Le feng shui, en fait, c'est le truc où les Européens, le feng shui, c'est le truc comment organiser ta maison pour être... Voilà, c'est pas ça. Lui, c'est mystique. Hein. C'est... Lui, en fait, il, par les signes astrologiques, il arrive à voir quelle va être ta vie dans les mois, années à venir. Et son boulot, à lui, dans ce type mystique, ce maître-là, ce sorcier, en quelque sorte, c'est d'arriver à, du coup, changer ta vie, à t'exorciser, pour que justement il ne t'arrive pas ce qui doit t'arriver. Et là, il est avec une jeune femme, on ne comprend pas bien, il l'enterre, il l'enterre dans de la terre, il lui met un sac plastique sur la tête. Alors, on croit que c'est un tueur, ce n'est pas du tout un tueur. En fait, il fait une cérémonie pour essayer de la sauver de son destin funeste. Alors, évidemment, au bout d'un moment, elle dit « mais ce type est complètement taré, c'est un pervers, quoi. C'est bon ». Donc du coup, elle se barre. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Elle va rentrer chez elle, cette prostituée, et elle va être tuée par un tueur en série. Et ce tueur en série va croiser, à ce moment-là, un livreur qui était venu apporter de la bouffe, non pas sur la scène de crime, parce qu'au départ, il était venu apporter de la bouffe à l'étage du dessus, mais comme il pleut tout le temps dans ce film, eh bien, en fait, il s'est pointé à l'étage du dessous, et le 9 est devenu un 7, et il s'est pointé chez cette prostituée. Alors, dans cet immeuble, il y a plein de prostituées, en fait, et il y a les Macs qui viennent tout le temps réclamer l'argent en tapant à la porte et tout. Bon, voilà. Et il y a ce jeune livreur qui, en fait, est un psychopathe. Voilà. Alors, il arrive sur la scène de crime. Alors, puis la scène de crime, c'est ultra gore. La victime pendue, du sang partout, tout ça. Et tout à coup, et au même moment, arrive le sorcier qui était venu pour la sauver. Parce que lui, il n'a pas changé d'idée. Il veut la sauver, quoi. Bon, c'est trop tard hein, quand il arrive. Et puis, il tombe sur ce type qui est là, qui est étrange. Et qui se met à taper ses baskets comme ça, avec la bouffe qu'il devait livrer, à taper ses baskets dans le sang. Et on voit que ça le fascine, en fait. Il est fasciné par le cadavre. Et on découvre que c'est un type qui torturait des chats, tout ça. Donc, c'est pas mon copain. Et ce chat, d'ailleurs, va revenir un peu comme une sorte d'humour noir. Il va revenir sous forme d'un chat maléfique, un chat noir aux yeux fluo jaunes, très étrange. Il va revenir plusieurs fois dans le film. Et en même temps, ce type, il a déjà fait de la tôle. Il vit chez ses parents, qui savent plus quoi faire de lui, comment le soigner, parce qu'il est mentalement esquinté. Et le sorcier va se mettre en tête de sauver ce gars, d'arrêter le tueur, enfin tout en même temps. Et ils vont former un duo très étrange, assez antipathique par moment. Et par moment, on va plus savoir qui est le plus fou des deux, quoi. Voilà, on se demande qui est le plus fou des deux. Pendant ce temps-là, les flics continuent leur enquête. Un flic continue en plus de courir après ce gamin, parce qu'il sait que c'est un psychopathe depuis qu'il est gamin, voilà. Et ça va donner une intrigue assez particulière, par moments burlesque, mais surtout très noire, et où c'est un objet filmique qu'on identifie hein, très clairement à l'image de Limbo, mais où surtout, ce qu'on voit, c'est un véritable enfer urbain. On voit une ville tentaculaire, on voit une société où la jeunesse, où les belles jeunes femmes se retrouvent obligées de vendre leur corps pour subvenir à leurs besoins, où les fous sont pas pris en charge par la société, la déficience mentale n'est pas traitée. C'est vraiment un film qui décrit une société qui va très très mal, quoi. Alors, est-ce qu'on peut faire une métaphore de ce que devient Hong Kong par rapport à la Chine, tout ça, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment un côté chez Soi Chiang, il y a un discours, en tout cas, il veut nous dire quelque chose, et il veut nous dire en particulier que cette société-là, elle n'apportera rien aux plus démunis. Je pense que c'est un message assez fort, en fait, dans le contexte de Hong Kong aujourd'hui et de la rétrocession qui, maintenant, voilà, est censée être consommée, mais bon, voilà. Et donc, le film débute comme un film de serial killer classique avant de basculer en film de possession. Il est particulièrement dérangeant, donc comme l'était Limbo, pour d'autres raisons. Et il peut laisser de côté certains spectateurs, hein, je le comprends, mais c'est une grave erreur parce qu'il louperait le travail, pour moi, d'un des cinéastes aujourd'hui, les plus singuliers qui soient. Ça s'appelle Matt Fate et c'est donc disponible chez Carlotta Film.
Les passants sur son chemin soulève leur galure, le chien lui lèche les mains. Sa présence rassure, voyez cet enfant qui bugle. Par lui secouru, et comme il est de l'aveugle, à traverser la rue, dans la paix de son jardin. Il cultive ses roses, monsieur est un assassin. Quand il est morose, il étrangle son semblable. Dans le bois de Meudon, quand il est inconsolable. Quand il a le bourdon à la barbe des voisins. Qui le trouve sympathique, monsieur est un assassin. Je suis son domestique et je classe le dossier. Sous les églantines, je suis un peu jardinier et je fais la cuisine.
Vous écoutez Culture Prohibée spécial polar et thriller.
Il étrangle son prochain quand il a le cafard. Allez hop dans le bassin, sous les nénuphars, et je donne un coup de balai. Sur le lieu du crime où il ne revient jamais, même pas pour la frime, sans éveiller les soupçons. Aux petites heures, nous rentrons à la maison. Je suis sans chauffeur, la 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 la. Sous son air anodin, c'est un lunatique, monsieur est un assassin. Chez lui c'est chronique, il étrangle son semblable. Lorsque minuit sonne et moi je pousse le diable. Dans le bois de Boulogne, le client dans une valise, avec son chapeau, prendra le train pour Venise. Et un peu de repos, il étrangle son semblable. Dans le bois de Meudon, quand il est inconsolable. Quand il a le bourdon à la barbe des voisins. Qui le trouve sympathique, monsieur est un assassin. Je suis son domestique. Vous allez pendre, monsieur. Je vais perdre ma place. Vous allez pendre, monsieur. Hélas, trois fois hélas, mais il fallait s'y attendre. Et je prie votre honneur humblement de me reprendre comme serviteur, et je classerai ce dossier. Sous les églantines, je suis un peu jardinier et je fais la cuisine.
On va changer d'endroit, on va aller vers une coproduction suédo-danoise, mon cher Damien, où tu vas nous parler d'un film de Gustav Möller, qui avait fait The Guilty, hein, qui avait été une petite révélation. Un film qui s'appelle Sons, un film de prison pour la plupart du temps, avec la belle Sidse Babette Knudsen, devenue célèbre pour son interprétation de Borgen. Bon, là, elle est filmée sans maquillage. Là, on met moins en avant son côté glamour. Hein. Pour son interprétation de Borgen, cette excellente série télé sur la politique au Danemark. Et là, elle fait une gardienne de prison qui va faire face à un dilemme, en gros. Quoi.
Dans Sun, en fait, on suit Eva, qui est une gardienne de prison, comme tu l'as dit, qui est exemplaire et idéaliste. En fait, elle aide les personnes qui ont fait des petits malfrats, finalement, à se remettre bien pour intégrer la société. Et en fait, tout va basculer quand on va rencontrer Mikael, qui est un jeune détenu qu'elle a connu par le passé. On ne sait pas trop c'est quoi leur lien au début, mais pour s'approcher de Mikael, elle va faire une demande pour être mutée dans une autre unité, parce que Mikael, il est dans l'unité la plus dangereuse de la prison, donc on se doute qu'il a fait quelque chose d'extrêmement grave. C'est un trailer oppressant, nordique, parce que tout se passe quasiment à l'intérieur de la prison et dans le milieu carcéral. On doute beaucoup de ce qu'on voit, de ce qui nous est mis devant les yeux. Déjà, en commençant par Eva, lorsqu'on la présente, on voit qu'elle fait notamment du yoga avec ses détenus, qu'elle les aide à aller de l'avant, qu'elle est là quand ils en ont besoin. Et au moment où Mikael apparaît, elle change totalement de comportement. Et c'est assez compliqué de savoir pourquoi est-ce qu'elle change de comportement. D'abord, elle va être mutée dans l'autre unité. On se dit il doit y avoir un lien familial. Et ensuite, quand on voit comment elle le traite, on se dit qu'il y a un problème. parce que très rapidement, elle va commencer à faire en sorte de poser problème à Michael. Il y a un moment, il va demander des clopes, un nombre de clopes auquel il a le droit. Elle va lui mentir en disant qu'il n'a rien. Le soir, il va appeler pour pouvoir aller aux toilettes. Elle ne va pas du tout répondre à son appel. Et à chaque fois, elle va faire en sorte qu'il lui arrive des problèmes. Et en découvrant le passé de Michael, on va très vite faire le lien entre elle et lui. C'est un film qui est assez intéressant parce que les actions de Eva durant un très long moment sont troubles et le problème c'est que dans cette histoire elle représente la figure de l'autorité et elle passe de quelqu'un qui veut aider les détenus à quelqu'un qui veut les noyer dans la détresse la plus totale. Et c'est un film qui devient extrêmement intéressant à travers ça, le fait que Eva était un personnage aidant et qu'elle devient finalement une barrière à la réinsertion. C'est un film qui est violent, qui à plusieurs moments est injuste et qui pose beaucoup de questions, et d'après ce que j'ai vu, c'est ce que voulait le réalisateur, justement poser une question autour de la justice et du rôle de celle-ci. Et c'est quelque chose qui marche vraiment avec le personnage de Eva, j'en parle beaucoup, mais c'est parce que c'est elle qui porte tout le film. Michael est intéressant, mais ce qui va vraiment attirer notre attention, c'est les interactions entre les deux une fois qu'ils vont être plus proches. Et c'est intéressant parce qu'il y a à plusieurs moments, il y a un peu le supérieur de Eva qui lui dit qu'elle ne doit pas se rapprocher de lui, que c'est quelqu'un de très dangereux. Et à la fin, il lui dit ces mots en disant que tout le monde ne peut pas être sauvé. Et ça change vraiment de la vision de la prison qu'on avait pour ces gens-là. C'est un film qui interroge beaucoup, qui est dur, mais on prend plaisir à le suivre et surtout on se rend compte que dans le milieu carcéral, au final, c'est un peu comme si les gardiens avaient tout pouvoir, ce qui en fait une micro-société et qui pose la question de la limite de cette société.
Ça s'appelle Sons et c'est donc disponible chez Blackout.
Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming. It's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.